Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Nous avons un problème grave dans certaines zones. Et ce qui se passe dans un endroit du pays peut avoir à la fin des conséquences partout ailleurs.
Le nombre de cas de Covid-19 repart nettement à la hausse aux États-Unis. Le Texas et la Floride referment leurs bars. Nous serons sur place. En région parisienne, lancement d'une campagne de dépistage massif.
C'est une bonne chose qu'on passe à la vitesse supérieure. Plus on teste, plus on trouve et plus on peut réagir derrière.
J-2, avant le second tour des municipales, on verra que cet entre-deux-tours interminable a donné lieu à pas mal de dérapages sur les réseaux sociaux. Il voulait apparemment faire une démonstration de clé d'étranglement sur l'une de ses collègues, mais il l'a blessée au cervical. Le policier en question est suspendu. Et puis on s'apprête à sabrer le champagne sur la canne-bière. L'OM pourrait être racheté par Mourad Boudjelal avec des fonds du Moyen-Orient.
C'est la volonté de faire de Marseille la capitale française de la Méditerranée. On est quand même conscient du monument et on est conscient des moyens qu'il faut pour être à la hauteur du monument.
Jean-François Pérès nous dira tout sur ce projet qui suscite beaucoup, beaucoup d'espoir à Marseille. 20 départements en vigilance orange ce soir pour risque d'orage sur une ligne traversant la France, de la Haute-Garonne à la Seine-et-Marne, en passant par le Lot, le Puy-de-Dôme et le Cher notamment. Attention, cet épisode est localement très violent. Ne manquez pas les prévisions détaillées d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris a terminé ce soir en repli, une légère baisse de 0,18% à 4 909 points. Claire Lemaître de Boursier.com nous dira comment s'est passée cette journée sur les places financières. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Corinne Joly. Elle est la présidente du PAP, le site bien connu de tous ceux qui cherchent un appartement ou une maison à louer ou à vendre. Elle nous confirmera que les Français sont à la recherche de biens immobiliers loin des grandes villes.
Europe 1.
Et direction donc d'abord les États-Unis où pour la première fois depuis 2 mois, la Task Force Coronavirus de la Maison-Blanche, la cellule de crise, a tenu cet après-midi une conférence de presse alors que le nombre de cas dans le pays est en recrudescence. Signe de la gravité de la situation. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 sur place.
Oui, ça fait 2 jours de suite que les États-Unis battent leur record de nombre de cas sur 24 heures, plus de 41 000 hier. Et l'épidémiologiste en chef du pays, le docteur Anthony Fauci, qui avait disparu des écrans ces dernières semaines, eh bien est revenu mettre en garde ses concitoyens.
Nous avons un problème grave dans certaines zones. Et ce qui se passe dans un endroit du pays peut avoir à la fin des conséquences partout ailleurs.
Ces zones dont parle le Dr Fauci, ce sont les États du Sud où le virus se propage très vite avec des records de contamination et d'hospitalisation. Les plus touchés, le Texas et la Floride, viennent d'annoncer la refermeture des bars. Ces deux États très peuplés avaient été parmi les premiers à rouvrir leur économie. Trop vite, trop tôt visiblement. Dans la 4e ville du pays, Houston, les autorités demandent à la population de rester chez elle comme s'il y avait un ouragan. C'est vrai qu'il y a une augmentation des cas, a reconnu du bout des lèvres le vice-président Mike Pence, qui a en fait passé son temps à minimiser la situation pour éviter de fâcher le grand absent de ce briefing. Donald Trump, le président américain, semble nier la réalité de cette résurgence du virus. Il parle seulement de braise à éteindre et assure dans un tweet qu'il ne refermera pas l'économie américaine.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Dans ce contexte, les Américains auront-ils le droit de venir en Europe à partir du 1er juillet, de la semaine prochaine donc? Les Européens sont en train d'en discuter et d'élaborer une liste de pays qui seraient les premiers autorisés à entrer en Europe pour l'ouverture de l'espace de Schengen mercredi. Les États-Unis pourraient donc en être exclus. La France a enregistré 26 nouveaux décès ces dernières 24 heures, tandis que le nombre de malades en réanimation continue de baisser. On vous parlait hier dans ce journal de cette campagne de dépistage à grande échelle qui va être lancée en Île-de-France. On aura théoriquement, en tout début de semaine prochaine, la liste des 30 communes concernées. La ville d'Athis-Mons dans l'Essonne devrait en faire partie. Athis-Mons, où des tests sont déjà effectués depuis plusieurs semaines, Hélène Terzian.
Effectivement, cela fait plus d'un mois et demi depuis le 11 mai que plus de 200 personnes se sont vues passer un écouvillon dans le nez. Jusqu'à maintenant, ce ne sont que des patients symptomatiques qui sont envoyés ici par leur médecin traitant. Sandrine, par exemple, est venue tout à l'heure se faire dépister derrière le paravent.
Il faut que je fasse un test pour voir si j'ai pas le corona, parce que j'ai des douleurs au poumon, mais bon, on vérifie.
On y va ? Alors, vous laissez bien le masque sur la bouche, d'accord ?
De l'arrivée des patients, en passant par le prélèvement jusqu'à leur envoi en laboratoire, tous les gestes sont maîtrisés. C'est donc très sereinement que l'infirmière Fatima Saïd d'Auvergne envisage, s'il le fallait, d'accueillir de nouveaux patients.
Que ce soit des patients symptomatiques ou que ce soit la population, la personne lambda, pour nous c'est pareil. L'équipe est prête, donc on peut y aller. Depuis un mois et demi on le fait, donc on est parfaitement rodé. L'équipe infirmière est opérationnelle, elle sait exactement quels sont les modalités pour ces tests.
Avec ce dispositif, Atis-Mons a une longueur d'avance, poursuit le médecin généraliste Edouard Kieffer, et il serait ravi que le dépistage monte d'un cran dans sa ville.
C'est une bonne chose qu'on passe à la vitesse supérieure, parce que en termes d'efficacité à petite échelle, ça a prouvé son intérêt. Le fait de rechercher des clusters dans la population générale va nous permettre en fait d'isoler les potentiels facteurs de propagation et donc d'anticiper notre réaction derrière, de les surveiller. Plus on teste, plus on trouve et plus on peut réagir derrière.
On ne connaît pas encore la liste de toutes les communes concernées par ce dépistage massif. On sait en revanche qu'elles sont choisies selon le nombre de médecins par habitant et les remontées sur la circulation du virus.
Le reportage d'Hélène Terzian dans l'Essonne. La situation est toujours préoccupante en Guyane où l'épidémie est active et en progression. C'est ce que dit aujourd'hui Santé publique France dans son point hebdomadaire. L'offre de soins est sous tension liée à la hausse des hospitalisations. En une semaine, la Guyane est passée de 88 à 308 cas pour 100 000 habitants et 27% des tests positifs contre 22% la semaine précédente. Alors ça n'est pas le cas en Guyane, mais en métropole, la situation sanitaire est suffisamment stable pour permettre l'organisation du second tour des municipales, J-2. La campagne s'achève ce soir à minuit, plus de 3 mois donc après le premier tour, ce qui a laissé du temps, beaucoup de temps aux candidats forcément. Et sur les réseaux sociaux, Jean-Sébastien Soldaini, cette campagne a été particulièrement virulente.
Oui, cela s'est notamment vu à 7 dans l'Hérault avec 51 comptes Facebook fermés de faux comptes mêlés à des vrais qui véhiculaient du contenu haineux ou de fausses informations tout en se faisant passer pour des médias locaux. Ce sont principalement des campagnes de dénigrement de candidats avec des commentaires racistes par exemple à Annecy. Alors il y a déjà eu des campagnes haineuses, virulentes par le passé, mais là, Fabienne Greffet, spécialiste politique et réseaux sociaux à l'Université de Lorraine, remarque que le contexte lié au coronavirus donne plus de visibilité à ces actions.
Les candidats, les listes sont privés de leur répertoire d'action qui consiste à organiser des réunions publiques, éventuellement faire les marchés. Et donc le fait que la campagne se soit déplacée vers les réseaux sociaux va produire une capacité pour des groupes hostiles de beaucoup plus réagir d'une part et d'être rendu beaucoup plus visible.
Des dérives que Facebook assure combattre pour, je cite, « protéger l'intégrité des élections ». Fake news, faux compte, le contenu est supprimé. Il peut aussi être pénalisé par le réseau social, c'est-à-dire que sa visibilité est diminuée. Le réseau en arrive là par des signalements ou encore par des enquêtes internes lorsque un nouvel utilisateur se comporte à l'opposé de ce que ferait un novice en postant immédiatement des dizaines de messages.
Jean-Sébastien Soldaini, et sachez que vous avez rendez-vous dimanche soir sur Europe 1, évidemment pour une grande soirée électorale présentée par Wendy Bouchard et Sébastien Krebs. La ministre de la Justice demande des comptes dans l'affaire dite des écoutes. La procureure générale de Paris, priée par la garde des Sceaux de rédiger un rapport circonstancié sur les agissements du parquet national financier. Le magazine Le Point indiquait hier que les magistrats financiers auraient espionné plusieurs grands avocats parisiens dans l'affaire des écoutes visant Nicolas Sarkozy.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h08, merci d'écouter Europe 1. C'est la suite de votre journal avec cette affaire. Ce policier suspendu après avoir pratiqué une clé d'étranglement sur l'une de ses collègues. Il aurait voulu s'exercer à cette technique d'interpellation apparemment. Deux enquêtes judiciaires et administratives ont été ouvertes après la plainte de cette policière. L'incident serait survenu à la suite d'une discussion entre les deux fonctionnaires qui se trouvaient à bord d'un train de banlieue parisienne, Guillaume Bier.
Et oui, la scène se déroule vendredi dernier à bord d'un TER entre la Seine-et-Marne et la gare de Lyon. À l'écart des voyageurs, une discussion s'engage entre policiers à propos des techniques d'interpellation et notamment de la clé d'étranglement très controversée. D'un côté, un agent de la police aux frontières d'Orly qui ne se sent pas très à l'aise avec cette technique, dit-il qu'il n'a pratiqué qu'une seule fois à l'école de police. Et face à lui, une policière rompue à cette technique parce qu'elle s'occupe habituellement des reconduites à la frontière. D'ailleurs, elle trouve son collègue un peu trop zen, lui dit-elle, pour ce genre de mission. Alors, le policier propose de s'exercer à la clé d'étranglement sur sa collègue, ce qu'elle accepte, sans imaginer qu'il va employer une telle force. Il faudra l'intervention de plusieurs autres policiers pour lui faire lâcher prise. La fonctionnaire blessée a porté plainte. L'IGPN devrait être chargée de l'enquête judiciaire, tandis qu'une enquête administrative est déjà ouverte au sein de la police aux frontières en vue d'une éventuelle sanction. Le policier mis en cause n'est pas suspendu à ce stade, mais il a changé de mission. Il n'est plus sur le terrain au contact du public.
Les précisions de Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Glasgow, en Écosse, théâtre d'une attaque au couteau cet après-midi. 6 personnes blessées dans un hôtel accueillant des réfugiés, blessées par un homme qui a été abattu par les forces de l'ordre. A priori, pour l'instant, la piste terroriste est écartée. Aux États-Unis, le vol test de certification du Boeing 737 MAX pourrait avoir lieu en début de semaine prochaine. C'est une étape incontournable avant la remise en service de l'avion qui éclôt le sol, vous le savez, depuis plus d'un an après 2 accidents dramatiques. Air France, elle, a dit adieu aujourd'hui à l'A380 avec un dernier vol de 2 heures offert à 516 salariés de la compagnie. Air France qui avait déjà décidé d'arrêter de faire voler ce géant des airs en raison de ses coûts d'exploitation très élevés, mais qui a accéléré le mouvement avec la crise du coronavirus. Sanofi supprime 1700 emplois, dont 1 millier en France, alors même que le groupe pharmaceutique a vu ses ventes dopées au premier trimestre par la crise sanitaire. Mais le groupe prépare une réorganisation. Les syndicats sont vent debout. C'est un débat de santé publique récurrent. Les dangers des pubs pour les sodas, les chips, les gâteaux, tout ce qui est sucré, faut-il les interdire carrément? On connaît bien sûr leur influence, en particulier sur les enfants. Santé publique France préconise leur disparition pure et simple aux heures de grande écoute, entre 19h et 22h. Pour Alain Bazot, le président du FC Que Choisir, cela permettrait de préserver au moins la santé des plus jeunes.
C'est pas normal de les exposer aussi fortement à la promotion de produits qui sont déséquilibrés. Et donc le fait de cibler ces produits-là en disant « on ne vous empêche pas de les vendre, mais vous n'êtes pas obligé non plus de matraquer à terme de publicité les enfants », nous on soutient cette mesure qu'on avait déjà demandé. On ne demande pas aux industriels de plus faire de la nourriture, c'est aux industriels de revoir leurs recettes, de rentrer dans une logique d'alimentation plus saine. Ils ont dans leur catalogue d'ailleurs des produits qui sont plus sains. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas ceux-là qu'ils promeuvent, qui mettent leur argent publicitaire sur ces produits-là? C'est ça le sens d'une nouvelle consommation dans une nouvelle société plus responsable et plus vertueuse.
Le président du FC Que Choisir avec Ève Roger d'Europe 1. Le foot et cette question, l'Olympique de Marseille a-t-il enfin trouvé son sauveur? Des investisseurs du Moyen-Orient seraient prêts à racheter le club avec à leur tête un nom plutôt très connu des amateurs de rugby, Mourad Boudjelal, ancien patron du rugby club de Toulon. Les premiers chiffres en tout cas évoqués, Jean-François Pérez, donnent le tournis.
C'est ça, l'OM, c'est ce soir la marque qui vaut peut-être 700 millions. 300 pour racheter le club au propriétaire américain Frank McCourt, c'est énorme. 200 pour éponger les dettes, qui sont en réalité moins importantes. Et 200 pour le mercato et les futurs transferts, c'est beaucoup en ces temps de crise post-Covid. Les investisseurs viendraient majoritairement d'Arabie Saoudite, autour d'un influent homme d'affaires franco-tunisien, installé sur place depuis des décennies et dont les réseaux s'étendent jusqu'à la classe politique française. Pour incarner ce projet vertigineux, vous l'avez dit, un Provençal, l'ancien patron à succès du rugby club toulonnais, Mourad Boudjelal, nous l'avons joint cet après-midi. Après de longues heures de discussion dans un palace parisien avec les principaux protagonistes, il nous confirme la réalité et l'ambition de cette offre de rachat de l'Olympique de Marseille.
Il y a des fonds privés, il y a des fonds étatiques. On est quand même conscient du monument et on est conscient des moyens qu'il faut pour être à la hauteur du monument. Ce projet a une connotation très forte méditerranéenne, c'est la volonté de faire de Marseille la capitale française de la Méditerranée. C'est un bassin de population de plus de 500 millions de personnes. Je pense que je peux porter ce projet. C'est excitant, mais ça fait peur. Mais pour l'instant, l'étape 1, c'est McCourt qui a la réponse.
Et justement, à l'OM, pour l'instant, eh bien, c'est silence radio. Personne ne souhaite réagir. Pendant ce temps, les banquiers d'affaires et les avocats peaufinent cette offre de rachat qui sera présentée la semaine prochaine à Frank McCourt. Rien n'oblige l'Américain à vendre l'OM, mais si les sommes évoquées sont les bonnes, il aura bien du mal à la refuser. Lui, qui a engagé son club sur le chemin de l'austérité et des économies, pas vraiment ce que veulent entendre les supporters à quelques semaines du grand retour de l'OM en Ligue des Champions.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Sachez par ailleurs que la Fédération française de foot a confirmé aujourd'hui la décision d'une Ligue 1 à 20 clubs la saison prochaine, entérinant donc la rétrogradation de Toulouse et d'Amiens en Ligue 2. Les dirigeants du club Picard ont déjà annoncé leur volonté d'engager un nouveau recours devant le Conseil d'État. C'était lundi dernier, la réouverture des cinémas. Alors quel bilan en cette fin de semaine? Lundi, il y a eu pas mal de monde, c'est vrai, mais la fréquentation des jours suivants semble un peu plus mitigée. Mathieu Charrier, vous avez pu obtenir les premières tendances?
Effectivement, ça avait commencé assez fort lundi-mardi avec une fréquentation des salles de l'ordre de 60 à 70% comparé à la même époque l'année dernière. Et ensuite, eh bien, ça a un petit peu ralenti. Résultat, je peux vous donner le chiffre ce soir, un peu plus d'1,5 million de Français sont, à l'heure qu'il est, allés dans un cinéma depuis leur réouverture. c'est beaucoup moins que les semaines classiques où ce sont plusieurs millions d'entrées qui sont enregistrées. Mais c'est déjà très bien, se réjouit Richard Patry, le président de la Fédération nationale des cinémas français.
Les cinémas sont ouverts, le public vient. La comparaison des chiffres ne sert à rien. Il n'y avait pas de coronavirus l'année dernière. C'était la semaine de la fête du cinéma l'année dernière. Donc forcément, on ne peut rien comparer. Donc je crois qu'il faut arrêter. Les restaurateurs, c'est pareil. Quand ils ont ouvert leur restaurant, ils n'ont pas passé leur temps à comparer. Ce qui est important, c'est que les spectateurs reviennent. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a des motifs d'inquiétude chez nos collègues. C'est très clair. La déprogrammation des films américains n'est pas une bonne nouvelle.
Ah oui, car c'est la mauvaise nouvelle du jour. Les deux films américains qui devaient attirer du monde en salle en juillet, Mulan de Disney en images réelles, Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan. La sortie de ces deux films a de nouveau été repoussée en raison de la situation critique liée au coronavirus aux États-Unis. Ce sont donc les films français seuls, comme tout simplement Noir, Divers Club de Michael Youn ou Été 85, signé François Ozon, qui vont devoir attirer cet été les spectateurs en salle.
Mathieu Charrier, spécialiste cinéma d'Europe 1. Allez, on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Anissa Haddadi, et 20 départements en vigilance orange ce soir aux orages sur une ligne traversant la France à peu près de la Haute-Garonne jusqu'à la Seine-et-Marne en passant par le Lot, le Puy-de-Dôme, le Cher. Dans ces départements, une forte activité électrique, hein, vous avez sans doute pu le constater près de chez vous, de la grêle, des violentes rafales de vent. Soyez donc très vigilants, grande prudence dans tous ces secteurs, Anissa.
Oui, grande vigilance effectivement Isabelle, avec cette nuit des Pyrénées aux Ardennes en passant par le Limousin, l'Auvergne, le Centre, la région parisienne et la Normandie, même jusque sur les Hauts-de-France, des orages hein, tout au long de la nuit. Et puis demain matin, sur la moitié nord du pays, le temps est à la pluie avec encore sur le nord-est des orages. Dans l'après-midi, du Pays Basque à la Côte d'Azur, il fait beau. Demain, le temps est sec et ensoleillé. C'est franchement le seul endroit en France où il fera beau demain, puisqu'en Auvergne, nous aurons encore des coups de tonnerre demain après-midi et sur tout le reste du pays. C'est un ciel partagé entre nuages, éclaircies et averses. Alors les températures, elles sont encore élevées demain matin avec 14 à 20 degrés, jusqu'à 21 dans le sud. Et puis dans l'après-midi, alors ça baisse un peu dans le nord avec 20 à 25 degrés en bord de Manche et sur les Hauts-de-France. Nous aurons 22 à Dunkerque, 18 à 22 en Bretagne, 25 à 30 degrés sur l'ensemble du pays, 26 pour Paris et Limoges, 28 à Clermont-Ferrand et jusqu'à 33 degrés dans le sud.
La météo orageuse d'Anissa Haddadi. Dans un instant, c'est la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir la présidente de PAP, Corinne Joly. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h18, merci d'écouter Europe 1, on s'intéresse à la bourse comme tous les soirs. Et c'est avec vous Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui termine cette semaine en baisse, hein, plombée toujours par la crise sanitaire, mais aussi par la chute des valeurs bancaires.
Oui, c'est une fin de semaine dans le rouge vif. Le Dow Jones perd 2,84%, 25 015 points, moins 2,6% pour le Nasdaq à 9 757 points. Le Texas et la Floride vont à nouveau fermer leurs bars à cause de l'épidémie, information qui a beaucoup inquiété Wall Street ce soir. Les banques aussi ont pesé, elles vont subir de nouvelles restrictions face aux risques posés par la crise sanitaire. La Fed va plafonner le versement des dividendes et elle a suspendu les programmes de rachat d'actions. Alors la réaction elle est violente avec un plongeon de 8,7% pour Goldman Sachs. JP Morgan chute de 5,5%, moins 6,5% pour Bank of America. L'équipementier sportif Nike abandonne 7,5%. Les résultats trimestriels sont décevants. Et c'est encore à cause du confinement. Et puis, dure séance aussi pour les réseaux sociaux. Facebook et Twitter lâchent plus de 7%. Plusieurs grands groupes, comme l'opérateur Verizon ou Unilever, vont suspendre leur publicité sur ces sites. Elles leur reprochent de ne pas assez lutter contre les discours de haine.
Et Wall Street qui a fait déprimer du coup, hein, le marché parisien en fin de séance.
Hein. Oui, c'était bien parti à Paris, mais Wall Street qui a beaucoup de poids sur ce qui se passe en Europe a fait plier le CAC 40 en fin de journée. L'indice perd un petit 0,18% à 4 909 points. Sanofi perd 0,8%. Vous en parliez dans le journal. Le groupe pharmaceutique a confirmé la suppression de 1 700 emplois en Europe sur 3 ans, dont 1 000 000 en France. Séance compliquée aussi pour les valeurs bancaires qui suivent le mouvement du secteur à New York. BNP Paribas perd 2% et Société Générale moins 1,8%.
En revanche, le secteur technologique, lui, tire son épingle du jeu ce soir.
Oui, les technologiques sont en forme. Worldline gagne encore 1% après sa forte hausse hier et puis des gains de plus de 1% pour Atos et Capgemini. Ailleurs, en Europe, les marchés ont terminé dans le rouge à l'exception de Londres qui gagne 0,2%. 0,02%. Francfort perd 0,7, moins 0,6 pour Milan, moins 1,3 pour Madrid, moins 0,2 pour le CAC 40 à Paris. Et il termine à 4 909 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Claire Lemaître de boursier.com. Il est temps de retrouver l'invité Éco. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir la présidente de PAP.
Bonsoir Corinne Joly.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la présidente de PAP, le site bien connu pour se trouver un appartement ou une maison à louer ou à vendre. Première question très très simple. Il paraît que pendant le confinement, on a eu envie de déménager. Est-ce que ça se vérifie en ce moment dans vos recherches ?
Ça se vérifie carrément. C'est-à-dire que pendant le confinement, c'est vrai qu'il y a eu on s'attendait à une grosse baisse des recherches et finalement pas tant que ça. Et alors là, depuis le déconfinement, on a des records historiques d'audience toutes les semaines. Là, en juin, on pense qu'on va atteindre les 5 millions de visiteurs uniques sur le site. Donc des records d'audience historiques, comme je vous dis, on a 56% d'acheteurs en plus que l'année dernière.
Qu'est-ce que viennent chercher les gens ?
Alors ça aussi, c'est la nouveauté de cette année, c'est que les recherches ont pas mal évolué. Alors évidemment, on en a pas mal parlé, il y a l'attrait des maisons ou au minimum des extérieurs. Et puis on voit que les localisations sont aussi différentes puisqu'il y a eu des très fortes progressions sur des départements beaucoup moins denses que d'habitude. En Ile-de-France, par exemple, la Seine-et-Marne est le département qui progresse le plus. Il y a x2 de recherches en Seine-et-Marne. Et puis on a ça autour de toutes les métropoles, par exemple autour de Lyon. L'un, pareil, a deux fois plus de recherches que l'année dernière. Donc on voit que la tendance, c'est de s'éloigner des métropoles pour avoir un espace plus grand et un jardin en extérieur.
Et là, on est d'accord, c'est des gens qui viennent chercher éventuellement des résidences principales. Ce n'est pas la petite maison à la campagne, en plus pour avoir un petit peu d'air.
Alors, il y a aussi des recherches de résidences secondaires. Il y a des départements qui progressent énormément, comme le Calvados, où là, je pense qu'on est plus sur de la résidence secondaire. Mais quand on voit que tous les départements limitrophes de l'Île-de-France progressent, Lyon, l'Eure, etc., je ne pense pas qu'on soit sur des résidences secondaires. Donc oui, en plus, on a eu pas mal de témoignages. On est plutôt sur de la résidence principale, des gens qui quittent leurs 2-3 pièces en centre-ville pour aller dans une maison beaucoup plus loin.
Alors, c'est une chose de regarder, de se mettre à rêver, de se dire si jamais mon entreprise me permettait d'être en télétravail 3 jours, je pourrais supporter 2 jours avec beaucoup de transport et donc acquérir ce bien un petit peu plus loin de la grande ville. Mais est-ce que ça se matérialise vraiment ? Est-ce que les gens commencent à aller un petit peu plus loin que la simple recherche et donc éventuellement à acheter ?
Oui, là on observe que ça a commencé à se matérialiser, il y a eu des offres d'achat, il y a eu des signatures, donc ça se concrétise. Je pense que faut être conscient que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, enfin pour moi la situation précédant le Covid, c'était quand même un peu une cocotte minute, l'immobilier trop cher, trop petit en centre-ville, ça faisait quand même un moment qu'on en parlait. Donc je pense que pour un certain nombre de personnes, le Covid ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, du coup, ils sont allés sans hésiter.
Est-ce que, du coup, le corollaire de tout cela, quelques appartements de petite taille dans les grandes villes se retrouvent à vendre ? Est-ce qu'il y a un petit peu plus d'offres que ce qu'il pouvait y avoir avant le Covid ?
Alors, ils ne sont pas encore en vente, mais moi, c'est un phénomène auquel je vais être vigilante pour la rentrée, parce qu'une vente, après la signature du compromis de vente, il y en a pour 3 mois. Donc là, les appartements ne sont pas encore mis en vente. Mais je pense qu'à la rentrée, c'est un phénomène qui peut se produire si, effectivement, il y a une multiplication des achats de maisons. Et dans ce cas, je pense qu'il faut être vigilant à l'évolution des prix dans ces zones-là, parce que si tout d'un coup, il y a un afflux d'appartements dans les centres-villes, ça pourra faire baisser les prix.
Vous, c'est ce que vous imaginez, hein. Vous êtes à force une spécialiste du marché de l'immobilier depuis le temps où vous êtes à la tête de PAP. Vous pensez que les prix vont baisser parce que ça, c'est un peu l'arlésienne quand même, hein.
Honnêtement, je trouve qu'en ce moment, c'est très très difficile de faire des projections parce qu'il y a des vents qui soufflent dans tous les sens. Alors, il y a plusieurs facteurs qui pourraient faire baisser les prix. Il y a ce facteur-là, la hausse de l'offre pour les appartements en centre-ville. Il y a aussi évidemment la situation économique. En général, une crise économique, ça impacte l'immobilier parce que ça fait baisser le pouvoir d'achat de tout le monde. Donc ça aussi, ça pourrait jouer en faveur de la baisse. En revanche, il y a une chose qui peut jouer en faveur de la hausse, c'est la volonté d'acheter qui est quand même très très forte en ce moment à cause du côté sécurisant de l'immobilier. Et là, aujourd'hui, honnêtement, c'est très difficile de dire quel facteur va l'emporter.
Là, dans les recherches que vous pouvez voir, hein, je rappelle que vous nous avez dit que vous êtes sur des niveaux records, par exemple, sur le mois de juin de recherche. Vous disiez plutôt des maisons, plutôt des extérieurs. Mais j'imagine qu'on cherche aussi quand même une ville, certes un peu plus loin, mais où on a un réseau de transport développé. On va peut-être laisser sa voiture aussi pour prendre le train qui est à une dizaine de minutes éventuellement de la maison. Est-ce que ça aussi, vous le voyez dans les recherches ?
Oui, c'est sûr qu'au niveau des, villes, les grandes gagnantes, c'est celles qui sont desservies et qui ont une gare qui permet d'aller rapidement, en moins d'une heure en général, dans la ville où on travaille. Ça, c'est clairement les villes qui sont les plus demandées en ce moment parce que l'idée, c'est pas forcément de faire le trajet en voiture. En effet, si je prends l'Île-de-France, tout le monde sait que Paris est ingarable, donc l'objectif, c'est quand même de l'atteindre en train. Et il y a beaucoup de villes où la situation est la même.
Et pour vous, on n'est pas sur un effet de mode. On est réellement sur quelque chose qui va être la tendance des mois à venir.
Je pense en effet qu'on est au-delà de l'effet de mode parce que, comme je disais, avant le confinement, il y avait quand même déjà une situation qui était très tendue dans les centres-villes. Ça fait des années et des années qu'on empile tout le monde dans les mêmes endroits et ça commençait vraiment à être compliqué pour le pouvoir d'achat immobilier. Donc pour moi, le fait que le télétravail, s'il continue, puisse permettre aux gens d'habiter plus loin, ça fait que répondre aux aspirations que les gens avaient. Personne n'a envie d'habiter dans un logement de 50 mètres carrés alors qu'on a un ou deux enfants. Donc c'était un problème auparavant. Le télétravail va peut-être permettre de régler ce problème. Maintenant, là où je reste quand même prudente, c'est que déjà le télétravail, c'est les entreprises qui vont décider de son avenir. Donc, on ne sait pas encore.
C'est
comment
en cours de négociation en ce moment pour adapter le télétravail à la nouvelle donne née du Covid.
Exactement. Et puis le deuxième point qui est important, c'est que l'aménagement du territoire, ça ne dépend pas juste des gens. Il faut une volonté politique. Il y a quand même des problèmes de services, des infrastructures à développer, accès aux hôpitaux, etc. Où, si on veut que les villes moyennes se redynamisent, il faut que la politique suive.
Eh bien, un grand merci Corinne Joly, la présidente du PAP, d'avoir été notre invitée ce soir. On se retrouve lundi 22h20 sur Europe 1.
Merci à vous, effectivement. On vous dit à lundi, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Municipal, la République en marge, titre Libération. Il y a encore un an, le parti présidentiel abordait le scrutin avec ambition, mais l'impopularité du chef de l'État, le réveil du clivage gauche-droite et la poussée écologiste ont douché les espoirs des marcheurs qui anticipent une débâcle au second tour dimanche. La République en marche risque de perdre dans toutes les grandes villes menacées par une vague écolo et le retour donc de ce clivage gauche-droite. Municipal, enfin le second tour pour West France, trois mois après le premier, 16,5 millions d'électeurs appelés à voter. Municipal, les inconnus d'un second tour inédit pour le Figaro, un scrutin déterminant pour la fin du quinquennat. Ce second tour n'intéresse guère les Français, il est pourtant passionnant tant le résultat est incertain dans de nombreuses agglomérations de France, écrit quant à lui Laurent Baudin dans le journal L'Alsace. Paris est l'exception qui confirme la règle. Alors qu'il y a un an, la capitale semblait tendre les bras au parti présidentiel, Anne Hidalgo a su retourner la force de ses adversaires en utilisant leurs failles. La surprise du chef, écrit Florence Chédotal dans le journal La Montagne. Ambiance fin de règne dans certains ministères alors que s'esquisse en coulisses le tracé du nouveau chemin. Qui sort? Qui rentre? Les jours d'Édouard Philippe à Matignon sont-ils suspendus à l'envoi d'un signal à gauche? Où passera-t-il l'été, voire plus, si affinité? Les amours politiques sont éphémères, les couloirs bruissent. Il faut meubler le vide de l'attente. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et à 22h30, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sabine Marin pour votre libre antenne. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Isabelle.
Je vous souhaite une très belle émission le 39-21, toujours bien sûr pour vous joindre.
Merci, à tout à l'heure pour les prochaines infos.